Ange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour le débat. Bienvenue. Nous parlons aujourd'hui des bombardements américains en Syrie, deux jours après une attaque chimique qui a tué 87 civils. Et alors qu'il avait toujours exprimé sa volonté de ne pas s'impliquer dans des conflits extérieurs, eh bien Donald Trump a décidé de frapper une base militaire syrienne. Que pensez-vous de ce virage à 180 degrés ? Était-il nécessaire, comme l'explique l'administration américaine ? Ou au contraire, s'agit-il, comme le dit le président russe, d'une agression contre un État souverain ? N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, on a envie de vous entendre. Vous êtes très nombreux déjà à commenter sur Facebook. Ellie pense que cette action est justifiée face à un dirigeant qui commet des crimes depuis 6 ans en toute impunité. Pour Abdoul, c'est clair, les bombardements américains sont une agression, mais en même temps la seule réponse qui permette de sanctionner l'attaque à l'arme chimique. Pour lancer le débat, nous sommes en ligne avec Chloé à Libreville, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc moi je condamne fermement ce que M. Trump a fait. Je trouve ça extrêmement effrayant qu'un monsieur de la plus grande puissance mondiale change d'avis à 180 degrés et décide de manière unilatérale de bombarder une nation souveraine. Peu importe les crimes qui ont été faits, moi c'est la première chose, c'est un terme de protocole et de respect du droit international. C'est assez grave pour moi et encore plus grave que la communauté internationale ne condamne pas cela. C'est-à-dire que demain, s'il veut bombarder un autre pays, il le fera sans demander l'aval de qui que ce soit. Il y a des règles pour cela. Deuxièmement, on bombarde. Est-ce qu'on a fait une enquête par rapport à ce qui a été fait ? Ce n'est pas être complotiste de dire que l'histoire nous a montré que dans ce genre de conflit, justement, assez avec beaucoup de tension, il y a mensonge, il y a désinformation et on se rend compte après, beaucoup trop tard, que ah ben non, c'était trompé.
La Russie, par exemple, a donné une autre version à propos de cette attaque. Moscou a dit que les tirs syriens avaient visé un local où les rebelles entreposaient des produits toxiques, mais cette version a été démentie par beaucoup d'experts militaires, par des médecins aussi, et qui disaient que dans ce cas-là, il aurait fallu un incendie pour que les liquides toxiques se transforment en gaz et que les conséquences dans ce cas-là auraient été beaucoup plus graves. Ça vous convainc pas, ça, Chloé ?
Ben, en quelques jours, non. En quelques jours, c'est beaucoup trop tôt. On dit, on fait une enquête avant tout. Et une fois de plus, on nous a menti plus d'une fois, que ce soit sur la première guerre du Golfe avec les bébés couveuses, cette femme qui est venue quand même faire son témoignage devant le Congrès aux États-Unis et on se rend compte qu'elle a menti. Elle est à la deuxième guerre avec les armes de destruction massive, venant d'un pays des États-Unis habitué justement à agir basé sur des excuses fallacieuses. Je trouve qu'il faut faire preuve d'être rationnel.
Plus de précautions. Oui. Avec nous en ligne de Conakry, Alpha Amadou, bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Est-ce que vous partagez l'avis de Chloé qu'on vient d'entendre ?
Non, je ne partage pas son avis, parce que si elle dit qu'elle condamne, je respecte son point de vue, mais je pense que c'est parce qu'elle ne se trouve pas en Syrie qu'elle condamne ces frappes américaines qui ont une légitimité internationale, qui sont salitaires. Ces frappes américaines sont opportunes aujourd'hui.
Alors pourquoi vous trouvez qu'elles ont une légitimité internationale ? Parce qu'effectivement, les États-Unis ont quand même décidé d'agir tout seuls.
Mais bien entendu, la posture et le rôle des États-Unis aujourd'hui, de superpuissance mondiale, fait qu'on ne peut pas laisser ce genre de situation avec une population totalement prise en otage par un dictateur hors pair, un dictateur qui ne fait que massacrer et décimer sa population. Je pense que c'est inacceptable. Et si ça continue comme ça, on peut dire que Trump aurait dû venir à la fin du premier mandat de Barack Obama. Avec ce pragmatisme, avec ce réalisme, il faut et faire un rappel à l'ordre qu'on ne peut plus continuer à détruire toute une population chaque jour qu'il y est fait.
Il aurait fallu agir plus tôt, d'après vous ?
Mais bien entendu, et avec ce pragmatisme de Donald Trump, il faut faire le harpoa pour faire comprendre à Bachar el-Assad que si jamais il répète à détruire sa population avec du gaz sarin, que ses jours sont désormais comptés. Je pense que les Nations Unies, le Conseil de sécurité est pris en otage. Même si on attendait l'aval du Conseil de sécurité, la Russie allait opposer son veto.
Oui, pour vous, c'est trop long et trop compliqué. bloqués. Il fallait agir plus vite. Merci Alpha Amadou. On va accueillir maintenant François qui nous appelle de Libreville. Bonjour François.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Alpha Amadou? Est-ce que vous pensez au contraire que Donald Trump aurait dû s'abstenir?
Non, pas du tout. Moi, je suis d'avis que l'auditeur précédent, plutôt contre ce qu'a dit Chloé il y a quelques minutes avant. C'est dire que vous comprenez que cette guerre dure depuis combien d'années déjà? Depuis presque 7 ans, si ma mémoire est bonne. Et en l'espace de 5 ans, 6 ans, voilà. En l'espace de 6 ans, est-ce qu'ils ont mesuré le nombre de personnes qui meurent en Syrie, les civils qui meurent en Syrie? Moi, j'ai l'impression, madame, que cette guerre profite à certains Occidentaux. Tant que ce n'est pas réglé, tant que c'est gardé dans le flou, c'est le peuple syrien qui perd. Donald Trump, si ce monsieur...
Comment ça profiterait aux Occidentaux, d'après vous?
Madame, je suis sûr qu'il y a la vente des armes dans cette affaire, comme c'est toujours dans ce genre de situation, et il y en a qui profitent de vendre leurs armes. C'est la seule situation qui leur permet à eux de vendre les armes. Vous savez, madame, la Syrie, si tout le monde avait pris la bonne décision avant, on ne serait pas arrivé aux 7 ans de faire partir M. Bachar al-Assad.
Pour vous, il faut faire partir Bachar al-Assad, absolument. Pourtant, il y a 10 jours encore, l'administration américaine expliquait que Bachar al-Assad, c'était une réalité qu'il fallait faire avec, en quelque sorte. Vous croyez que Donald Trump a vraiment changé d'avis sur l'avenir de Bachar al-Assad?
Madame, la réalité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, a fait comprendre à Donald Trump que... Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et il l'a compris lui-même d'ailleurs. Pourquoi il fait ce volte-face? Parce qu'il est au pouvoir, il voit la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir ne peut pas tolérer qu'on détruise des êtres humains avec des armes chimiques. Ça, c'est pas normal, ça. C'est parce que l'Occident, les Européens et autres Américains avant Donald Trump ont beaucoup parlementé. La diplomatie, quand elle ne marche pas, il faut passer à une autre solution qui secourt les populations. Parce que dans tout cela, c'est la population qui perd. Bachar al-Assad est tranquille chez lui, en train de parlementer avec les Russes, avec les Français, avec tout ce que vous voulez. Il passe mal à la télé condamné. Mais quand on condamne à la télé, ça rapporte quoi? Rien du tout. C'est ça qui conforte beaucoup plus Bachar al-Assad. Donc pour moi, Donald Trump a vu la réalité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et il a compris que quand on est au pouvoir, il y a des décisions fortes qu'il faut prendre, et l'homme paraît être, pour ma part, alors que moi je suis habituellement démocrate. Je n'avais pas un soutien un peu pour Donald Trump, mais quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui, je me dis, pourquoi cet homme n'est pas venu avant?
Vous trouvez qu'il a pris la bonne décision. Merci François de nous avoir appelé. Très bonne journée à Libreville. Vous êtes très nombreux sur Facebook, notamment à vous interroger sur la stratégie des États-Unis et les conséquences à long terme de cette frappe américaine en Syrie. Bonjour David.
Bonjour Anne.
David, vous nous appelez de Béthune. Qu'est-ce que vous pensez de ces bombardements américains?
Oui, je pense que c'est bien fait. Parce que déjà, il y a un retard. Vous savez combien de morts depuis l'utilisation de ces armes chimiques? Bachar al-Assad, depuis 6 ans, gagne du temps sur la protection des Russes. Il fallait qu'il y ait cette intervention pour dire aux Russes, trop c'est trop, parce que Poutine, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Il a annexé la Crimée, il bombarde l'Ukraine, on ne parle pas de droit international. Alors donc, la crise syrienne, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et déjà, la ligne rouge, à l'époque, parlait le président Obama, a été franchie depuis. Et au moment où il y avait une intervention avec la Grande-Bretagne des États-Unis, on a fait marche arrière et c'est en ce moment où les Russes ont dit, désormais, nous avons la voie libre, on peut faire ce que l'on veut.
Alors, à l'époque, il y avait quand même eu un accord. Hein. Quand il y avait eu une attaque chimique en 2013, il y avait eu effectivement 1400 morts et ça avait bien sûr beaucoup choqué. Et finalement, Barack Obama avait fait marche arrière parce qu'à ce moment-là, la Syrie s'était engagée à détruire ses stocks d'armes chimiques. Enfin, plus précisément, à remettre ses stocks d'armes chimiques pour qu'ils soient conduits ailleurs et détruits. Donc, il y avait eu un geste. C'est ça qui avait fait que Barack Obama avait reculé.
Oui, mais ce geste, la Russie n'est pas allée jusqu'au bout pour détruire toutes les armes chimiques, pas du tout. C'est en ce moment, d'ailleurs, et Bachar al-Assad est sorti, si vous voulez, gagnant de cette tension. Et alors, toutes les résolutions aux Nations Unies sont bloquées par la Russie et la Chine, l'Iran. Et aujourd'hui, on continue à protéger Bachar al-Assad. Pendant ce temps, c'est des milliers de centaines qui meurent avec, à cause de, cette, de ces armes, l'utilisation des armes chimiques. Donc moi, je pense que c'est des réactions, c'est de dire aux Russes que trop c'est trop, attention cette fois-ci. Si on continue, et on va passer à autre chose. Et moi, je pense que la réaction de Trump, moi, je ne le soutiens pas, mais c'est des réactions, pour moi, elle est salutaire. Et si... bon, moi, je pense aussi qu'il faut chercher à déloger Bachar el-Assad. Parce que tant que Bachar est là, soutenu par la Russie, rien ne va changer dans ce pays.
Mais pour l'instant, ça n'était pas la ligne américaine de déloger Bachar el-Assad.
Oui, mais désormais, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la donne change. La donne change pour dire à Bachar, en tout cas, tu continues, nous, on va te déloger. Et politiquement, je pense qu'on ne peut pas déloger Bachar aujourd'hui. Pour déloger Bachar, tout comme tout dictateur, il faut un coup de force, il faut... Alors, Bachar, combien de négociations on a menées avec Bachar? Toutes les résolutions sont bloquées aux Nations Unies.
Donc pour vous, il faut passer par une intervention militaire parce que la diplomatie ne fonctionne pas. Merci David. On accueille maintenant Enoch. Bonjour.
Bonjour Anna.
Vous pensez vous aussi qu'il fallait bombarder les bases du régime syrien?
Bon, mais je pense qu'il fallait bien donner un signal fort à Bachar el-Assad qui a... continuer à utiliser les gaz neurotoxiques contre son peuple. Bon, je crois que ça valait quand même la peine. C'était le moment, malgré les tergiversations de Barack Obama à l'époque, puisque déjà, vous venez de le rappeler, plus de 1400 morts en 2013. Je crois qu'il n'a pas respecté les engagements pris. Et je plaide beaucoup plus pour le droit d'ingérence, d'autant plus que, voyez-vous, lorsqu'on pense que Bachar el-Assad a le droit de tout faire sur son peuple, a le droit d'utiliser des gaz neurotoxiques, il peut tuer comme il veut. Non, je crois que c'est un signal fort à l'endroit de tous ceux qui traitent leur peuple de cette façon-là.
Enoch, vous restez avec nous, nous sommes en ligne. Restez avec nous, Enoch. Nous sommes en ligne aussi avec Willy qui nous appelle de Paris. Bonjour Willy.
Oui, bonjour Anne.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient de dire Enoch sur le droit d'ingérence?
Le droit d'ingérence est une décision qui est mondialement connue, mais je pense qu'il faut éviter la tentative de va-t-en-guerre que l'on observe. Et puis, parlant de résolutions qui ont été piétinées ou bloquées, je pense que Poutine n'est pas le premier à en faire. Je pense qu'on ne compte plus le nombre de résolutions qui ont été bloquées par les États-Unis, notamment vis-à-vis d'Israël. Mais moi, je pense qu'il faut absolument épuiser toutes les voies de démocratie et de diplomatie avant de passer à autre chose. Il me semble qu'on aurait pu accorder encore peut-être 72 heures à la communauté internationale pour vérifier qu'effectivement les armes dont on parlait et qui ont donc fait 86 morts de cette manière-là, que ces armes étaient bel et bien envoyées par monsieur le président de la Syrie. Il est très important de faire en sorte que l'on aille jusqu'au bout d'un processus avant de déclencher une hostilité comme celle-là, dont les retombées seront au-delà du seul pays qu'on appelle la Syrie.
Faut privilégier la diplomatie en quelque sorte, mais quand même il faut reconnaître que jusqu'à présent les Nations Unies ont beaucoup de mal à agir. Après cette fameuse attaque chimique mardi dernier, le Conseil de sécurité a discuté pendant 2 jours sans réussir à se mettre d'accord même sur une résolution pour condamner l'attaque. On parle même pas de réagir, d'action, mais juste de condamner.
Mais oui, mais Anne, qu'est-ce qu'on a dit de l'identification de l'origine de ces armes? Qu'est-ce qu'on a dit si le président américain a des preuves? Qu'il les présente, ces preuves.
Il y a eu plusieurs témoignages de médecins sur place, l'Observatoire de la Santé à Idlib, juste à côté. Il y a eu plusieurs témoignages. L'Organisation Mondiale de la Santé elle-même a dit qu'il y a eu des agents neurotoxiques. Et plusieurs médecins ont expliqué, par exemple, que si la version russe, c'était vraiment ce qui s'était passé, à savoir un bombardement sur un local qui appartenait aux rebelles et dans lequel se trouvaient des liquides toxiques, les conséquences auraient été très différentes. Il aurait fallu un incendie pour que ça se transforme en gaz et que ça puisse libérer justement ces émanations mortelles. Il y a eu des témoignages quand même.
Le témoignage, c'est un aspect, mais est-ce que c'est une preuve? Qu'est-ce que la communauté internationale a mis en place pour vérifier ces hypothèses? Moi, je pense qu'il s'agit d'actes extrêmement graves et nous savons bien que ce type d'acte a souvent conduit à des engagements individuels de terrorisme. Moi, j'ai peur parce que je vis à l'étranger, je vis chez moi aussi, je sais que à tout moment, ce type d'acte peut faire en sorte que un fou ou quelqu'un de fragile qui n'apprécie pas mieux cette situation puisse poser un acte alors que la preuve n'a pas été faite et c'est le président syrien.
Enoch, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il aurait fallu attendre davantage? Vous êtes d'accord avec Willy?
Mais je crois qu'on a attendu. On a attendu suffisamment. On a beaucoup attendu. Voyez-vous, le président Barack Obama n'a pas voulu prendre cette décision. Mais la ligne rouge a été franchie. Et je crois que le président Donald Trump a eu raison de donner ce signal-là, parce qu'en fait, il a compris qu'il y avait beaucoup de tergiversations et le président Bachar el-Assad et la Russie ont continué à frapper de la même façon, en utilisant les gaz jusqu'à l'utilisation de gaz neurotoxique. Donc, voyez-vous que la ligne rouge a été plusieurs fois utilisée. Plus de 1400 morts à l'époque, aujourd'hui près de 89. Mais si seulement il devait avoir une troisième fois, on ne sait pas, est-ce que mon prédécesseur a compris combien il y a de civils, combien il y a d'enfants qui sont en train de mourir. Pourquoi utiliser les gaz neurotoxiques contre son peuple, même s'il y avait des problèmes politiques à régler à l'intérieur? Je crois que ça ne valait pas la peine. Et encore que Trump a été même prudent en informant quelques heures avant la Russie de l'opération qui devait être menée. Moi, je pense que ça vaut et ça valait bien la peine. Il frappe pour dire aux gens que, en utilisant le droit d'ingérence, nous pouvons intervenir parce qu'il y a des blocages au niveau des Nations Unies et il y a des gens qui continuent à s'entêter, à faire ce que l'on ne veut pas, on ne devrait pas faire. Écoutez, je crois que ça valait bien la peine. Hein, nous sommes nombreux à soutenir que ça valait bien la peine parce que il faut arrêter tous ces dictateurs, tous ceux qui pensent que, puisqu'ils sont d'une certaine puissance, ils ont des armes, ils vont continuer à massacrer leur peuple. Je crois que ça vaut la peine.
Merci Enoch, merci d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué donc qu'il fallait, selon vous, bombarder cette base du régime syrien pour envoyer un message à Bachar el-Assad. Nous sommes en ligne avec Kamel qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je suis pas du tout d'accord avec les auditeurs d'avant, là.
Allez-y, expliquez-nous pourquoi. Oui, on vous entend.
Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il réagit, c'est un peu normal, sur un fail qui date moins d'une semaine. Mais si on regarde bien, il y a 27 ans, l'Irak qui tombe un peu dans le piège du Koweït. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu les mensonges de l'histoire des couveuses par une petite fille qu'on on a dit désire telle ou telle chose, comme quoi le régime de l'époque de Saddam Hussein avait massacré des enfants et des bébés dans les couveuses.
Donc selon vous, ça n'est pas réel ce qui s'est passé?
Si, ça a pu être fait, ça s'est fait, mais pas de cette façon-là.
C'est-à-dire?
Ça ne s'est pas fait de cette façon-là. Si on prend l'histoire des couveuses, qu'est-ce qui se passe après?
Non, mais là, on parle de ce qui s'est passé en Syrie la semaine dernière.
Oui, d'accord. En Syrie, qu'est-ce qui a pu se passer? Quand on regarde bien les premières images, j'ai regardé une vidéo, moi, c'est de CNews. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des hommes qui sont avec des enfants qui arrosent d'eau. Mais les enfants, quand on regarde bien, je trouve où sont leurs mamans ou quelqu'un de proche, un jeune ou leur frère ou leur soeur, on les voit pas, on voit juste des enfants entourés d'hommes.
Ah bah ça veut rien dire du tout. Et puis ils ont pu être transportés pour être soignés, parce que les arrosés d'eau, c'est pour décontaminer les corps.
Oui, mais leur maman, aucun. Et en 2013, c'était exactement la même chose. Et qu'est-ce qui a pu se passer? On a dû kidnapper ces enfants-là, comme en 2013.
Bon, écoutez, et Kamel, on vous a entendu. Je suis pas sûre que le fait qu'il n'y ait pas de parents présents autour des enfants, ce soit vraiment un signe. Mais merci de nous avoir appelés. Très rapidement, on va prendre Ibrahima. Bonjour, Ibrahima.
Bonjour.
Alors, je suis désolée, il vous reste très peu de temps, mais on voulait vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ces frappes américaines?
Moi, je pense que c'est du cinéma, parce que Trump est connu pour ces sorties-là. Comment on peut lancer 59 Tomahawk sur une zone pour ne faire que 9 victimes finalement? C'est un arrangement de copains. Je pense que Trump a été accusé.
Ah bah l'objectif des Américains, ça n'était pas de tuer. Hein.
Ben, je pense que quand on mène une opération militaire, il y a forcément un but opérationnel. Finalement, c'était quoi? Parce que le lendemain, la base était utilisable.
Oui, mais leur objectif, c'était d'envoyer un message. On l'a entendu tout à l'heure, il y avait un expert en géopolitique dans la première partie de l'émission qui nous expliquait justement que l'objectif de ces bombardements américains, c'était d'envoyer un message.